Chapitre 35. Rupture. En approchant du vallon de la Vauvre, nos voyageurs remarquèrent du côté de Blanchemont une nappe immense de lourde fumée que le soleil levant commençait à blanchir. « Regardez donc, dit le meunier, comme il y a du brouillard sur la Vauvre ce matin, surtout du côté où nous avons toujours envie de regarder tous les deux. » « Ça me gêne, je vois pas les toits pointus de mon beau vieux petit château, qui de tous les côtés, quand je fais mes courses aux environs, sert de point de mire à mes pensées. » Au bout de 10 minutes, la fumée que les vapeurs humides du matin affaissaient sous leur poids rampa tout à fait au bas du vallon, et Grand Louis, arrêtant brusquement le cheval du notaire, dit à son compagnon « C'est singulier, monsieur Lénore. Je sais pas si j'ai la berlue ce matin, mais j'ai beau regarder, je vois pas le toit rouge du château neuf au bas des tours du vieux château. Je suis pourtant bien sûr qu'on le voit d'ici, mais je suis arrêté plus de 100 fois, et je distingue les arbres qui sont autour. Eh bien, regardez donc, mais le vieux château est tout changé. Les tourelles me paraissent aplaties. Où diable est le toit ? Le tonnerre m'écrase, il n'y a plus que les pignons. Attendez, attendez. Qu'est-ce qu'il y a donc de rouge du côté de la ferme ? C'est du feu, oui, du feu, et toutes ces choses noires. Oh, monsieur Lévor, je vous le disais bien, quand nous sommes arrivés à Jeulebois, que le ciel était tout rouge et qu'il y avait un incendie quelque part, vous me souteniez que c'était des brûlis de bruyère. Je savais bien qu'il n'y avait pas de bois de ce côté-là. Regardez donc, je rêve pas. Mais le château, la ferme, tout est brûlé. Mais Rose, et Rose, oh mon Dieu, et Madame Marcel, et mon petit Édouard, et la vieille Bricolin, mon Dieu. Et le meunier, fouettant le cheval avec fureur, prit au galop la direction de Blanchemont, sans s'inquiéter cette fois si la vieille Sophie pouvait ou non le suivre. À mesure qu'ils approchaient, les indices du sinistre ne devenaient que trop certains. Bientôt ils l'apprirent de la bouche des passants, et bien qu'on leur assura que personne n'avait péri, tous deux, pâles et oppressés, allaient la course, trop lente à leur gré du cheval qui les emportait. Arrivés au bas du terrier, comme ce pauvre animal, haletant et couvert d'écume, ne pouvait plus gravir le chemin qu'au pas, ils arrêtèrent devant chez la Piolette et sautèrent du cabriolet pour courir plus vite. En ce moment, Marcel, sortant de la chaumière, parut à leurs yeux. Elle était pâle mais calme, et ses vêtements ne portaient la trace d'aucune brûlure. Occupée toute la nuit à soigner les personnes, elle ne s'était pas consacrée inutilement à vouloir éteindre le feu. En la voyant, les morts faillit s'évanouir de joie. Il lui prit la main sans pouvoir lui parler. « Mon fils est ici, et Rose chez le curé, dit Marcel. Elle n'a éprouvé aucun accident, elle n'est presque pas malade. Elle est heureuse, malgré la consternation de ses parents. Il n'y a dans tout cela que de l'argent perdu. » C'est peu de choses au prix du bonheur qu'il attend. Quoi donc ? Dit le meunier, je comprends pas. Allez la voir, mon ami, rien ne s'y oppose, et apprenez d'elle-même ce que je ne veux pas vous dire la première. Grand Louis, stupéfait, se mit bientôt à courir. Les morts entra dans la chaumière avec Marcel, et tandis que la Piolette et son mari s'occupaient des chevaux, il courut vers le lit où dormait Édouard. Le dernier des Blanchemont reposait tranquillement sur le grabat du plus pauvre paysan de ses domaines. Il ne possédait même plus un gîte, et l'hospitalité de l'indigence était la seule chose qu'il put réclamer en cet instant. Ah, il n'a donc pas couru de danger, s'écria les morts en baisant ses petites mains humides d'une douce chaleur. « Oh, ce petit être est d'une bonne trempe, » dit Marcel avec un certain orgueil. « Il n'a pas été malade, il s'est éveillé dans une fumée étouffante, et il n'a pas eu peur. Il a passé la nuit avec moi, à préserver et à consoler les autres, trouvant, malgré sa faiblesse et son ignorance du malheur, des soins, des caresses et des paroles naïvement angéliques pour moi et pour tous ces êtres sans courage qui tremblaient et criaient autour de nous. Et moi, qui craignais pour sa santé la frayeur et l'émotion, cette frêle créature enferme une âme héroïque, les morts. C'est un enfant béni que Dieu avait marqué en naissant pour en faire un noble pauvre. L'enfant s'éveilla aux caresses de les morts, et le reconnaissant cette fois son affection plus qu'à ses traits, « Henri, lui dit-il, pourquoi donc voulais-tu pas me parler quand tu faisais Antoine ?» Marcel commençait à s'expliquer avec stoïcisme à son amant. Elle lui disait dans quel nouveau désastre cet incendie précipitait le reste de sa fortune. Lorsque M. Bricolin, la figure bouleversée, les vêtements en lambeaux et les mains toutes brûlées, entra dans la chaumière. Au sortir de sa première terreur, le fermier avait travaillé avec une énergie et une audace désespérée à vouloir sauver ses bœufs et ses récoltes. Il avait failli être 100 fois victime de son acharnement. Il n'avait renoncé à de vaines espérances qu'en se voyant au milieu d'un monceau de cendres. Alors, le découragement, le désespoir et une sorte de fureur s'étaient emparés de sa pauvre tête. Il était devenu comme fou et il accourait vers Marcel d'un air égaré, les idées confuses et la parole embarrassée. « Ah, vous voilà enfin, madame, » dit-il d'une voix entrecoupée. « Je vous cherche dans tout le village et je sais ce que vous devenez. » « Écoutez, écoutez, madame Marcel, ce que j'ai à vous dire est très important. Vous avez beau être tranquille, tout ce malheur-là retombe sur vous. Tout ce dommage-là vous concerne. » « Je le sais, monsieur Bricolin, » répondit Marcel avec un peu d'impatience. La vue de cet homme cupide n'était pas consolante pour elle en cet instant. « Vous le savez ?» reprit Bricolin avec une sorte de colère. « Et moi aussi, je le sais. C'est à vous de rebâtir le domaine et de recomposer le cheptel de Blanchemont. » « Et avec quoi, s'il vous plaît, monsieur Bricolin ?»« Avec votre argent. N'avez-vous pas de l'argent? Ne vous en ai-je pas donné assez ?»« Mais je ne l'ai plus, monsieur Bricolin. Le portefeuille a brûlé. » « Vous avez laissé brûler mon portefeuille, le portefeuille que je vous avais confié !» s'écria Bricolin exaspéré et en se frappant le front avec ses poings. « Mais comment avez-vous été assez folle, assez bête, pour ne pas sauver le portefeuille, puisque vous avez bien eu le temps de sauver votre fils ?»« J'ai sauvé Rose aussi, monsieur Bricolin. C'est moi qui l'ai portée dans mes bras hors de la maison. » « Pendant ce temps-là, le portefeuille a brûlé. Je ne le regrette pas. »« C'est pas vrai. Vous l'avez. »« Je vous jure devant Dieu que non. Le meuble où il était, tous les meubles de cette chambre ont brûlé pendant qu'on sauvait les personnes. Vous le savez bien, je vous l'ai dit, car vous m'avez interrogé là-dessus. Mais vous ne m'avez pas entendu, vous ne vous souvenez pas. »« Oh, si, je m'en souviens. » dit le fermier, consterné. « Mais j'ai cru que vous vous trompiez. »« Et pourquoi vous tromperais-je? Cet argent n'était-il pas à moi ?»« À vous? Ah, vous ne diez donc pas que je vous ai acheté hier soir votre terre, que je voulais payer et qu'elle m'appartient. » »« Mais comment la pensée vous vient-elle que je sois capable de le nier ?»« Ah, pardon, pardon, madame, je n'ai pas ma tête. » dit le fermier abattu et calmé. « Je le vois bien, » dit Marcel, d'un ton de mépris, auquel il ne prit pas garde. « C'est égal, la réparation des bâtiments et le cheptel sont à votre charge, » reprit-il après un silence pendant lequel ses idées se confondirent de nouveau. Non, de deux choses l'une, monsieur Bricolin, dit Marcel en levant les épaules, ou vous n'avez pas acheté le domaine, et il m'appartient de réparer le mal, ou je vous l'ai vendu et je n'ai pas à m'en occuper. Choisissez. C'est vrai, dit encore Bricolin, tomba dans une nouvelle stupeur. Puis il reprit bien vite. « Oh, je vous l'ai bel et bien acheté, payé, vous pouvez pas nier ça. J'ai votre acte qui porte quittance. Je l'ai pas laissé brûler, moi. Ma femme l'a dans sa poche. Ben, en ce cas, vous êtes tranquille, et moi aussi, car j'ai aussi le double de notre acte dans ma poche. Mais vous devez supporter le dommage !» s'écria Bricolin avec une sombre fureur. « Je ne vous ai pas acheté une terre sans bâtiment et sans cheptel. Il y en a une perte de 50 000 francs au moins. » « Je n'en sais rien, mais le désastre a eu lieu après la vente. C'est vous qui avez mis le feu. »« C'est très probable, » dit Marcel avec un froid mépris. « Et j'y ai jeté le prix de ma terre pour m'amuser. » « Non, pardon, pardon, je suis malade, » dit le fermier. « Perdre tant d'argent dans une nuit !»« Mais c'est égal, madame Marcel, vous me devez une indemnité pour mon malheur. J'ai toujours eu du malheur avec votre famille. Mon père, pour un dépôt que lui avait fait votre grand-père, a été mis à la torture par les chauffeurs et a perdu 50 000 francs qui étaient à lui. » Les suites de ce malheur sont irréparables, puisque votre père y a perdu la santé de l'âme et du corps. Mais ma famille est fort innocente du crime des brigands, et quant à la perte de votre argent, elle a été largement compensée par mon grand-père. C'est vrai, oui, oh, c'était un digne maître. Aussi, vous devez faire comme lui, vous devez m'indemniser. « Mais vous tenez tant à l'argent, et j'y tiens si peu, monsieur Bricolin, que je vous satisferai si j'étais en mesure de le faire. Mais vous oubliez que j'ai tout perdu, jusqu'à une misérable somme de 2 000 francs que j'avais retirée de la vente de ma voiture, jusqu'à mes vêtements et mon linge. Mon fils ne peut pas même dire qu'il ne possède au monde en ce moment-ci que les habits qui le couvrent, car je l'ai emporté nu de votre maison. Et si cette femme que voici ne l'avait pris chez elle avec une sublime charité pour le couvrir des pauvres habits d'un de ses enfants, je serais forcé de vous demander l'aumône d'une blouse et d'une paire de sabots pour lui. Laissez-moi donc tranquille, je vous en supplie. J'ai la force de supporter mon malheur, mais votre rapacité m'indigne et me fatigue. « Ah, c'est assez, monsieur, » dit les morts qui ne pouvaient plus se contenir. « Sortez, laissez madame en paix. » Bricolin n'entendit pas cette apostrophe. Il s'était laissé tomber sur une chaise, sensible au dénuement absolu de Marcel, parce qu'il lui ôtait toute espérance de la rançonner. « Ainsi, » s'écria-t-il avec désespoir, en frappant des poings sur la table. « J'ai cru faire un bon marché cette nuit. J'ai acheté blanchement 250 000 francs, et voilà que ce matin j'ai 50 000 francs de perte en bâtiments et en bestiaux. Ça fait, dit-il en sanglotant, que le domaine me revient à 300 000 francs, comme vous le vouliez. Mais il ne me semble pas que ce soit ma faute, il dit que j'en profite, dit froidement Marcel, dont l'indignation tomba, en voyant celle de les morts, et qui le retenait pour le forcer à se modérer. C'est donc là toute votre malheur, monsieur Bricolin, dit naïvement la Piolette, émerveillée de tout ce qu'elle entendait. Vraiment, moi je m'en arrangerai bien. Cette pauvre dame a tout perdu. Vous êtes encore riche, aussi riche qu'hier soir. Et vous lui demandez quelque chose. C'est drôle tout de même. si Blanchemont vous revient, avec votre malheur qu'à 300 000 francs, c'est encore joliment bon marché. J'en sais bien qu'il aurait donné davantage. Qu'est-ce que vous dites, vous ? Répondit Bricolin. Taisez-vous, vous n'êtes qu'une sotte et une commère. Non, monsieur, merci, dit la Piolette, et se retournant avec fierté vers Marcel. C'est égal, madame, dit-elle. Puisque vous avez tout perdu, vous pouvez bien rester chez moi tant que vous voudrez, et partager mon pain noir. Je ne vous le reprocherai pas, et je ne vous renverrai jamais. Écoutez, monsieur, dit Lénore, et vous rougissez. Vous, je sais pas qui vous êtes, répondit Bricolin furieux. Personne ne vous connaît ici. Vous avez l'air d'un meunier comme j'ai l'air d'un évêque. Mais vous n'irez pas loin, mon garçon. Je vous désignerai aux gendarmes pour qu'on vous demande vos papiers, et si vous n'en avez pas, nous verrons. Le feu a été mis chez moi par malveillance. C'est assez clair, tout le monde l'a constaté, et le procureur du roi est là qui verbalise. Vous êtes bien avec un homme qui m'en veut, suffit. Ah, oh, c'en est trop, dit les morts indignés. Vous êtes le dernier des misérables, et si vous ne sortez d'ici, je saurais bien vous y forcer. Arrêtez, dit Marcel, en saisissant le bras de les morts. Ayez pitié de cet homme, il a perdu la raison. Soyez indulgents pour le malheur, quelque lâche qu'il se montre. Suivez mon exemple, les morts. Ma patience est à la hauteur de ma situation. Bricolin n'écoutait pas, il tenait sa tête dans ses mains et gémissait comme une mère qui a perdu son enfant. Et moi, qui ai déjà voulu me faire rassurer parce que c'était trop cher, criait-il d'un ton lamentable. Et mes bœufs, mes pauvres bœufs qui étaient si beaux et si gras, un lot de moutons qui valait 2 000 francs et que j'ai pas voulu vendre à la foire de Saint-Christophe. Marcel ne put s'empêcher de sourire, et sa haute raison contint l'indignation de les morts. « C'est égal, dit le fermier en se levant tout à coup. Votre meunier n'aura pas ma fille. Ben, « En ce cas, vous n'aurez pas ma terre. L'acte est clair et la condition formelle. Nous plaiderons, à la bonne heure. Oh, vous ne pouvez pas plaider, vous. Il faut de l'argent pour ça et vous n'en avez pas. Et puis, il faudrait me restituer le paiement et comment feriez-vous ? D'ailleurs, votre jolie condition est nulle. Et quant au meunier, je vais commencer par le faire arrêter et conduire en prison, car c'est lui, j'en suis sûr, qui a mis le feu chez moi par vengeance de ce que je l'ai chassé hier. Tout le village me servira de témoin comme quoi il m'a fait des menaces. Et le monsieur que voilà suffit. À moi, les gendarmes !» Et il s'élança dehors, en proie à un véritable délire. Chapitre 36 La Chapelle. Inquiète pour le meunier et pour les morts que l'aveugle vengeance de Bricolin pouvait entraîner dans une affaire sinon grave, du moins désagréable, Marcel engageait son amant à se cacher, et la Piolette sortait déjà pour avertir Grand Louis d'en faire autant, lorsque l'on vit tout le monde dispersé sur le terrier et occupé à commenter le désastre, se rassembler et se mettre à courir vers la ferme. Oh, je suis sûr que c'est déjà fait, s'écria la Piolette en pleurant. Ils auront déjà mis la main sur ce pauvre Grand Louis. Les morts, n'écoutant que son courage et son amitié, sortit de la chaumière et s'élança vers le terrier. Marcel, effrayé, l'y suivit, laissant Édouard à la garde de la fille aînée de son hôtesse. En entrant dans la cour de la ferme, Marcel et les morts virent avec effroi ses masses éparses de noir décombre, le sol ruisselant d'une eau qui ressemblait à un lac d'encre, et la foule des travailleurs épuisés, mouillés, brûlés, semblables à des spectres, et qui se préparaient à une nouvelle fatigue. Le feu venait de se rallumer à une petite chapelle isolée située entre la ferme et le vieux château. Ce nouvel accident semblait incompréhensible, car cette construction était restée intacte jusque-là, et si une flammèche fut tombée dessus pendant l'incendie, le feu n'eût pas pu couver aussi longtemps dans une provision de pois sec qui était renfermée. Le feu partait cependant de l'intérieur, comme si une main implacable eût poussé l'audace jusqu'à vouloir, sous les yeux de tous et en plein jour, détruire jusqu'au dernier bâtiment du domaine. « Laissez brûler la chapelle !» criait M. Bricolin, écumant de rage. « Courez après l'incendiaire ! Où il doit être par là ? Il ne peut pas être loin !»« C'est grand Louis, j'en suis certain, j'ai les preuves ! Cherchez dans la Garenne ! Cernez la Garenne !» M. Bricolin ignorait que, pendant qu'il signalait ainsi le meunier à la vindicte publique, celui-ci, oubliant tout et ne sachant plus rien de ce qui se passait au dehors, était au presbytère, à genoux auprès du fauteuil où l'on avait déposé Rose, et qu'il recevait de sa bouche l'aveu de son amour et la révélation des engagements pris par son père. Dans le désordre général, le curé et même sa servante s'étant mêlés aux travailleurs officieux, la grand-mère Bricolin était seule restée auprès de Rose, et les jeunes amants, plongés dans la plus pure ivresse, ne se souvenaient plus des événements qui s'agitaient autour d'eux. Un cercle s'était formé autour de la chapelle, et on dirigeait les pompes, lorsque M. Bricolin, qui s'était avancé jusqu'à la porte cintrée, recula d'horreur et alla tomber sur un de ses garçons de ferme qui le soutint d'un grand peine. Cette chapelle, qui avait été jadis attenante au vieux château, montrait encore aux yeux des antiquaires d'assez jolis détails de sculpture gothique. Mais la vétusté d'une telle construction devait céder bientôt à l'intensité de la chaleur. La flamme sortait par les fenêtres, et les rosaces délicates commençaient à se détacher avec fracas, lorsque la porte à demi ouverte fut poussée brusquement de l'intérieur. On vit alors sortir la folle, une petite lanterne dans une main et un brandon de paille enflammé dans l'autre. Elle se retirait lentement après avoir mis la dernière main à son œuvre de destruction. Elle marchait d'un air grave, les yeux fixés à terre, ne voyant personne et tout occupée du plaisir de sa vengeance, longtemps méditée et froidement exécutée. Un gendarme trop consciencieux marcha droit à elle et l'arrêta en la prenant par le bras. La folle s'aperçut alors que la foule l'entourait. Elle porta vivement son brandon enflammé à la figure du gendarme qui, surpris de cette défense imprévue, fut forcé de lâcher prise. Alors la bricoline, retrouvant son agilité impétueuse et prenant une expression de haine et de fureur, s'élança dans la chapelle comme pour se cacher en proférant des imprécations confuses. On tenta de l'y suivre, mais personne n'osa. Elle traversa la flamme avec la prestesse d'une salamandre et gravit le petit escalier en spirale qui conduisait au comble. Là, elle se montra à une lucarne et on la vit activer le feu qui montait trop lentement à son gré et qui bientôt l'environna de toutes parts. On fit vainement jouer les pommes pour assurer le toit. Il avait été récemment réparé et garni en zinc. L'eau coulait dessus et pénétrait fort peu. Le feu couvait donc à l'intérieur, et l'infortuné bricoline, brûlant lentement, devait subir des tortures atroces. Mais elle ne parut pas les sentir, et on entendit chanter un air de danse qu'elle avait aimé dans sa jeunesse, qu'elle avait sans doute dansé souvent avec son amant, et qui lui revint à la mémoire au moment d'expirer. Elle ne fit pas entendre une seule plainte. Sourde aux cris et aux supplications de sa mère, qui se tordait les bras et qu'on retenait de force pour l'empêcher de courir auprès d'elle, elle chanta longtemps, puis elle parut à la fenêtre une dernière fois, et reconnaissant son père, « Ah, monsieur Bricolin !» lui cria-t-elle, « c'est un bien beau jour pour vous que le jour d'aujourd'hui !» Ce fut sa dernière parole. Quand on fut maître de l'incendie, on retrouva ses os calcinés sur le pavé de la chapelle. Cette affreuse mort acheva d'égarer l'esprit de M. Bricolin et de briser le courage de sa femme. Ils ne songèrent plus à arrêter personne, et pendant toute la journée, Rose, la mère Bricolin et son vieux mari furent complètement oubliés d'eux. Enfermés à la cure, M. et Mme Bricolin ne voulurent voir personne et n'en sortirent que lorsqu'ils eurent épuisé ensemble toute l'amertume de leur peine. Chapitre 37, conclusion. Marcel avait eu la présence d'esprit de prévoir que Rose, malade et brisée par tant d'émotions, n'apprendrait pas sans danger la déplorable fin de sa sœur. Elle avait suggéré au meunier de la mettre bien vite dans le cabriolet du notaire et de l'emmener à son moulin avec la grand-mère et le vieux infirme dont la bonne femme ne voulait pas se séparer. Marcel, appuyé sur le bras de Lémore qui portait Édouard dans ses bras, les suivit de près. Pendant quelques jours, Rose eut tous les soirs dans ses vifs accès de fièvre. Ses amis ne la quittaient pas d'un instant. Et après avoir réussi à lui cacher le spectacle des funérailles du mendiant Cadoche, qui fut porté en terre avec toutes les cérémonies qu'il avait exigées, ils lui laissèrent ignorer la mort de la folle, jusqu'à ce qu'elle fût en état de supporter cette nouvelle. Mais pendant bien longtemps encore, elle n'en connut pas les affreuses circonstances. Marcel consulta M. Taillant sur la valeur de l'acte passé avec Bricolin. L'avis du notaire ne fut pas favorable. Le mariage étant d'ordre public, on en pouvait faire une clause de vente. Et dans le cas de clauses illicites, la vente subsiste et les dites clauses sont réputées non écrites. Tels sont les termes de la loi. M. Bricolin les connaissait avant la signature de l'acte. Au bout de 3 jours, on vit arriver au moulin le fermier, pâle, abattu, maigri de moitié, ayant perdu jusqu'à l'envie de boire pour se donner du cœur. Il paraissait incapable de se mettre en colère. Cependant, on ignorait dans quelles intentions il venait à Angibault, et Marcel, qui voyait Rose encore bien faible, tremblait qu'il ne vînt la réclamer avec des paroles et les manières outrageantes. Tout le monde était inquiet, et on sortit en masse au-devant de lui pour l'empêcher d'entrer s'il n'annonçait pas des intentions pacifiques. Il débuta par intimer froidement à la mère Bricolin l'ordre de lui ramener sa fille au plus vite. Il avait loué une maison dans le bourg de Blanchemont, et il allait commencer les travaux de reconstruction. « Ben, de ce que je suis mal logé, disait-il, c'est pas une raison pour que je sois privé de la société de ma fille et pour qu'elle refuse ses soins à sa mère. Ce serait le fait d'un enfant dénaturé. En parlant ainsi, Bricola lançait au meunier des regards farouches. On voyait bien qu'il voulait tirer sa fille de chez lui, sans esclandre, sauf à exhaler ensuite sa rancune et à accuser au besoin Grand Louis de l'avoir enlevée. « c'est juste, » dit la mère Bricolin, qui s'était chargée de répondre. « Bien longtemps que Rose demande à retourner auprès de son père et de sa mère. Mais comme elle est encore malade, nous en avons empêché. Je pense qu'aujourd'hui, elle sera en état de te suivre et je suis prête à l'accompagner avec mon vieux, qui a de quoi nous loger. Laisse seulement à Madame Marcel le temps de préparer la petite au plaisir et à la secousse de te revoir. » Moi, j'ai à te parler en particulier, Bricolin. Viens dans ma chambre. La vieille femme le conduisit dans la chambre qu'elle partageait avec la meunière. Marcel et Rose avaient été installés dans celle du meunier. Les morts et Grand Louis couchaient au foin avec délices. Bricolin, dit la bonne femme. Tu vas faire bien de la dépense pour ces bâtiments. Où donc prendras-tu l'argent? Qu'est-ce que ça vous fait, la mère? Vous n'en avez pas à me donner, répondit Bricolin d'un ton brusque. Je suis à court, il est vrai, dans ce moment, mais j'emprunterai. Je serai pas embarrassé pour trouver du crédit. Oui, mais avec de gros intérêts, comme c'est l'usage. Et puis quand il faut rendre ça? On est déjà lancé dans de nouvelles dépenses nécessaires et inévitables. Ça gêne, ça encombre, et on ne sait plus comment en sortir. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Puis-je serrer l'année prochaine mes récoltes dans mon sabot et mettre mon bétail à l'abri sous un balai? Qu'est-ce que ça coûtera donc tout ça? Oh, Dieu sait, à peu près. Bon, 45 à 50 000 francs, tout au moins. 15 à 18 000 pour les bâtiments, autant pour le cheptel, et autant que j'ai perdu de ma récolte et de mes profits de l'année. Oui, ça fait 50 000 francs environ. C'est bien mon calcul. Eh bien, dis donc, Bricolin, si je te donnais ça, qu'est-ce que tu ferais pour moi? Vous? S'écria Bricolin, dont les yeux reprirent leur feu accoutumé. « Avez-vous donc des économies que vous m'aviez cachées? Ou est-ce que vous radotez ?»« Je radote pas. J'ai là 50 000 francs en or que je te donnerai si tu veux me laisser marier Rose à bon gré. »« Ah, voilà, toujours le meunier. Mais toutes les femmes en sont folles de cet ours-là, même les vieilles de 80 ans. » « c'est bon, plaisante, mais accepte. »« Et où est-il, cet argent ?»« Ben, je l'ai donné à garder à Grand Louis, » dit la vieille, qui savait son fils capable de le lui arracher de force des mains dans un moment d'ivresse, s'il venait à le voir. « Et pourquoi Grand Louis, et non pas à moi ou à ma femme? Vous voulez donc lui en faire une donation s'il ne fait pas votre volonté ?» « L'argent d'autrui est en sûreté dans ses mains, » dit la vieille, « car il a eu celui-là à mon insu, et il me l'a rapporté quand je croyais perdu pour toujours. Il est à mon homme, s'entend, mais puisque vous l'avez fait interdire, et que nous étions sous l'ancienne loi à donner notre bien à fond perdu aux derniers survivants, j'en dispose. » « Mais c'est donc un recouvrement. » « C'est impossible, vous vous moquez de moi, je suis bien bon de vous écouter. »« Écoute, » dit la mère Bricolin, « c'est une drôle d'histoire. » Et elle raconta à son fils toute l'histoire de Cadoche et de sa succession. « Et le meunier t'a rapporté cet argent-là quand il pouvait n'en rien dire ?» s'écria le fermier stupéfait. « Mais c'est très honnête, ça, c'est très joli de sa part. Il faudra lui faire un cadeau. Bien qu'un cadeau à lui faire. C'est la main de Rose, puisqu'elle lui a déjà fait le cadeau de son cœur. Mais je ne donnerai pas de dot, s'écria Bricolin. Ça va sans dire qui est-ce qui t'en parle. Faites-moi donc voir cet argent-là. La mère Bricolin conduisit son fils auprès du meunier, qui lui montra le pot de fer et son contenu. Et de cette manière-là, dit le fermier ébloui, et comme ressuscité par la vue de tant d'or monnayé, Madame de Blanchot n'est pas absolument dans la misère. Grâce à Dieu. Et à toi, grand Louis. Grâce à la fantaisie du père Cadoche. Et toi, de quoi hérites-tu? De 3 000 francs, dont un tiers est destiné à la Piolette, et le reste à établir deux autres familles auprès de moi. Nous travaillerons tous ensemble, et nous nous associerons pour les profits. Mais c'est bête, ça. Non, c'est utile et juste. Mais pourquoi pas garder ces 1 000 écus pour les présents de noces de ta femme? Non, non, ça sentirait l'argent volé. Et quand même, ça ne serait que le produit de l'aumône. Vous qui êtes si fiers, voudriez-vous que Rose eût sur le corps des robes payées avec tous les gros sous du pays, données en charité à un mendiant? On n'aurait pas été obligé de dire d'où ça provenait. Ah ça, il y a qu'en la noce, grand Louis. Demain, si vous voulez. Publions les bons demain et remets-moi l'argent aujourd'hui dans les besoins. Non pas, non pas, s'écria la vieille fermière. Tu l'auras le jour de la noce. Non, 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 mon garçon. La vue de l'or avait ranimé M. Bricolin. Il se mit à table, trinqua avec le meunier, embrassa sa fille et remonta sur son bidet entre 2 vins pour aller mettre ses maçons à l'ouvrage. Comme ça, se disait-il en souriant, j'ai toujours Blanchemont pour 250 000 francs, et même pour 200 000 francs, puisque je ne dote pas ma dernière fille. Et nous aussi, les morts, nous allons faire bâtir, dit Marcel à son amant, lorsque Bricolin fut parti. Nous sommes riches. Nous avons de quoi élever une jolie maisonnette rustique, où notre enfant aura une bonne éducation, car tu seras son précepteur, et le meunier lui apprendra son état. Pourquoi ne serait-on pas à la fois un ouvrier laborieux et un homme instruit? Et je compte bien commencer par moi-même, dit les morts. Je ne suis qu'un ignorant, je m'instruirai le soir à la veillée. Je suis garçon de moulin. L'état me plaît, et je le garde pour la journée. Quelle belle santé cette vie va faire à notre Édouard. Eh bien, madame Marcel, dit le grand Louis, en prenant la main de les morts, vous qui me disiez, la première fois que vous êtes venu ici, oh, il y a 8 jours, ni plus ni moins, que votre bonheur sera d'avoir une petite maison bien propre, avec du chaume dessus, et des pampres verts tout autour, dans le genre de la mienne. Une vie simple et pas trop gênée comme la mienne. Un fils occupé et pas trop bête comme moi. Et tout cela ici, sur notre rivière de Vauvre, qui a l'honneur de vous plaire. Et à côté de nous, qui sommes de bons voisins. Et tout cela en commun, dit Marcel, car je ne l'entends pas autrement. Oh non, c'est impossible, votre part, quant à présent, est plus grosse que la mienne. Vous calculez mal, meunier, dit les morts. Le tien et le mien entre amis sont des énormités comme 2 et 2 font 5. Me voilà donc riche et savant, reprit le meunier, car j'ai le cœur de Rose et vous allez me parler tous les jours. Quand je vous le disais, monsieur les morts, qu'il se ferait un miracle pour moi et que tout s'arrangerait, Je comptais pourtant pas sur l'oncle Cadoche. Mais qu'est-ce que tu as donc à danser comme ça à Lochon ? Dit Édouard. J'ai mon enfant, répondit le meunier en l'élevant dans ses bras. Quand je t'en m'effilais, j'ai pêché dans le plus clair de l'eau un petit ange qui m'a porté bonheur et dans le plus trouble un vieux diable d'oncle que je réussirai peut-être à faire sortir du purgatoire.